إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال الحديث متواصلا في بيان أحكام صلاة المسافر، وسبق لنا بيان بعض ما يهم صلاة المسافر من تعريف السفر والقصر، ثم تطرقنا أيضا إلى بيان حكم القصر للمسافر، وذكرنا نقاط أخر فيما يخص صلاة المسافر، وتوقفنا في ما تبقى من بيان مسافة القصر. توقفنا الأسبوع الماضي في بيان مسافة القصر، وإن شاء الله تعالى نحاول إن تيسر لنا في هذه الليلة أن نبين أيضا متى يبدأ المسافر القصر، متى يبدأ المسافر القصر، وأيضا نحاول أن نبين مدة القصر، وأيضا سنتكلم إن شاء الله في حكم أو كيف يصلي المسافر خلف المقيم، وكيف يصلي المقيم خلف المسافر، ثم نختم في بيان الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فهذا يعني النقاط التي سنتطرق إليها هذه الليلة، وغدا إن شاء الله تعالى كما ومقرر سنحاول أن نقرأ فتاوى منتقات من فتاوى اللجنة الدائمة إن شاء الله تعالى. Donc je disais, on avait commencé l'assise concernant la prière du voyageur et on avait traité certains points comme la définition du voyage, la définition du qasr, c'est-à-dire le fait de raccourcir, que signifie raccourcir la prière, et on s'est arrêté au point qui traite ou qui concerne la distance pour laquelle on peut considérer c'est un voyage. Quelle est la distance considérée pour un trajet qui soit un voyage, un qasr, où on peut faire le qasr. Aussi, on va essayer de traiter, inshallah, à partir de quel endroit on commence à faire le qasr. Après qu'on essaie de définir la distance du voyage, ensuite on va traiter à partir de quand on commence à faire le qasr, et aussi on va parler la durée du qasr, c'est-à-dire quel est le temps qu'on peut faire, et pendant tout ce temps on peut raccourcir la prière. Donc on doit connaître aussi quel est le temps, parce qu'il faut, il y a des conditions pour définir la durée du qasr, c'est-à-dire la durée du fait de raccourcir la prière. Et aussi on va traiter le jugement de la prière du voyageur derrière un résident, c'est-à-dire le imam s'il est résident, et vice versa aussi quand un résident il fait la prière derrière un voyageur. Et aussi on va parler, et on termine par le point comment faire la prière du voyageur. Et surtout, on va parler sur le point al-jam'a, le fait de regrouper. Parce que le voyageur, il a la permission, on aura l'occasion de détailler, le voyageur, il a la possibilité de regrouper les prières. En plus qu'il peut raccourcir, il peut regrouper. On va expliquer, on va éclaircir ce point, le fait de regrouper la prière du voyageur. Et demain, inshallah ta'ala, normalement, comme j'ai programmé, ce soit une lecture des fatawas tirées des fatawas de l'Ajna Da'ima concernant le chapitre du voyageur. On va un petit peu balayer tous les points qu'on avait traités aujourd'hui, et demain inshallah ta'ala, chaque point abordé, on va lui consacrer des fatawas pour confirmer ce qu'on avait dit inshallah ta'ala. Donc on commence par le premier point qui est تحديد مسافة القصر. تحديد مسافه القصر. Donc, la première question qui se pose, même si on connaît que signifie le voyage, on sait, on a appris que, on a donné le jugement, quel est le fait, le jugement de raccourcir la prière pendant le voyage, mais le point d'interrogation que j'ai pas voulu qu'on aborde la semaine précédente parce que c'était à la fin du dars, j'ai préféré que ça soit aujourd'hui. Donc, on va commencer par le premier point qui est le plus important, c'est définir la distance du voyage. À partir du camp, ou quelle est la définition ou quels sont les critères pour lesquels ou avec lesquels on peut définir tel trajet un voyage. Donc je répète la question, quelle est la définition, quelles sont les contraintes, comment on définit un trajet, on peut le considérer comme un voyage. Donc, et on avait expliqué, c'est très important, pourquoi? Parce que à partir du moment où on décide, on juge que tel trajet c'est un voyage, ça change. C'est-à-dire la prière, elle change. Pourquoi? Parce qu'on a une facilité de regrouper. On a la facilité aussi, ou la permission de raccourcir. Concernant aussi la purification, on a expliqué que al-mash al-khufayn, il change. Une jour et une nuit pour le résident et 3 jours pour le voyageur. Le jeûne, as-sawm, il devient plus obligatoire pour celui qui voyage. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître à partir de quand on peut considérer tel trajet un voyage. Qui a une réponse, qui a un avis, ou qu'est-ce que vous avez comme avis, après on va les traiter. Non. Naam. Une première réponse, c'est ce qui est connu entre les gens, un voyage, on en considère comme un voyage. Ce qu'on appelle al-urf. Ma ta'arafa alayhi nas fahuwa as-safar. Ça, c'est une définition parmi les définitions qu'on a. Al-malikiyin. Aina al-malikiyoun. Où sont les malikites? Hein? Il n'y a pas? Hein? Chkoun? Vas-y, avance. Qu'est-ce que tu proposes? La distance pour laquelle on peut considérer tel trajet un voyage. Les malikines, ils ont une définition qui est 80. Plus que 80 kilomètres. Plus que 80 kilomètres. Je vais pas jouer avec exactement tel mètre, mais parce qu'il y en a qui disent 80, 84, 86, etc. Mais l'essentiel, plus que 80 mètres, c'est considéré pour enlever le, hein? 80 kilomètres. 80 kilomètres. Non, pas 80 mètres. Sinon, même de chez moi, je suis voyageur. Non, c'est 80 kilomètres. Ça, c'est le Malikine, il dit cet avis, on l'a bien entendu la semaine dernière, il y a parmi certains gens qui assistaient, ils ont dit 80 kilomètres. Je ne voulais pas insister, mais j'ai préféré aujourd'hui qu'ils soient là, mais il n'y a pas de mal, s'ils sont absents. Mais quand même, on va détailler, on va expliquer. Revenons à la détermination de la distance du voyage. Donc, c'est le premier point qu'on va aborder. En réalité, avec cette condition, je devrais détailler tous les avis qui concernent la définition ou comment déterminer tel trajet un voyage, il faut une quinzaine d'assises. Pourquoi? Les savants se sont divergés. Et c'est un point où les savants se sont vraiment divergés sur ce point. Je vous donne que certains points et on va directement aller à l'objectif. L'imam Ibn Mundhir, dans son ouvrage Al-Awsat, et ce que je vais vous dire, vous le trouvez dans l'explication de Ibn Hajar al-Asqalani sur son Sharh Sahih al-Bukhari, dans le chapitre, le volume numéro 2, et dans le chapitre Taqsir al-Salat, le raccourcissement ou le fait de raccourcir la prière. Il a cité cette parole que je viens vous dire. Il a dit, Imam Ibn Mundir, il a rapporté dans son livre Al-Awsat 20 définitions du voyage. On a 20 avis. On n'a pas 2, 3, 4. Et lui, dans son ouvrage Al-Awsat, il les a exposés un par un. Et chacun avec son argument, le problème. Ce n'est pas des avis comme ça. Non. Tel sahabi, qu'est-ce qu'il a choisi? Deuxième avis. Les sahabi, les adillah qui prouvent qu'on aura la deuxième définition. La troisième, jusqu'au 20. Vous remarquez que ce n'est pas un point qu'on ne peut pas négliger ce point. Mais je vais vous simplifier. Vu qu'on a, parce qu'autour de ceux qui assistent, souvent, je remarque qu'il y a que on peut traiter que deux définitions. On ne peut pas traiter les 20 parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et vu qu'on est débutant, comme je vous ai dit, il n'est pas recommandé ou conseillé de connaître la divergence. Mais, vu que j'ai remarqué ceux, il y en a qui ont donné, deux définitions, je vais me limiter à ces deux définitions qu'ils étaient proposées dans ceux par qui ils étaient assis la semaine dernière. Ils ont donné deux définitions. La première définition, c'était. On va commencer par le Malikiyin, hein. Pour ceux qui ont l'avis malikite, on les respecte. Et il y a beaucoup de pays qui ont le madhab al-maliki. Mais comment il faut le savoir? L'avis ou l'école malikite, ils considèrent que le voyage, il commence à partir de 4 burud. Dans leur ouvrage de jurisprudence, il n'y avait pas le kilomètre. Avant, il n'y avait pas le terme kilomètre. Il y avait des autres unités de mesure. Ces unités de mesure de distance, ce qu'on appelle al-burd. Son pluriel, c'est al-burd. Eux, ils disaient, et ça, c'est tiré d'un hadith. On va parler tout à l'heure. Ils ont dit, la distance minimale pour déterminer un trajet, on peut le considérer comme un voyage, à partir du moment où il dépasse 4 burd. 4 burud, Tayyib. Eux, ils ont estimé cette distance de 4 burud, ça revient aux 80 km. Ça revient à une distance de 80 km, ou 86 km, ou 84 si on veut. 86 km exactement. 86 km. Donc, eux, ils ont cet avis, le fait que si on dépasse 4 burud, qui signifie qu'il y a une distance de 86 km, il est considéré comme un voyage. Il est considéré comme un voyage. Et cet avis, hein, il peut me dire, mais c'est vrai, le Maliki, ils ont dit ça, mais d'où ils ont ramené ça? Il y a un hadith où c'est un point de divergence. Les savants, ils se sont divergés sur le hadith dans lequel ils se sont basés. Et je rappelle, l'avis de Imam Malik et les Malikites, ils ne sont pas les seuls. Donc ça, c'est un point très important, je préfère vous le dire dès maintenant. L'avis de considérer que la distance du voyage, elle est 86 km, ils ne sont pas les seuls. Les Shafi'ites, aussi, ils ont le même avis. Les Hanbalites, ils ont le même avis. Et carrément, on va... Demain, on aura l'occasion de l'exposer. Même la comité des grands savants, ils ont défini que le voyage, il commence à partir de 86 km. Pour dire, on a déjà 3 écoles parmi les 4 écoles répondues dans l'école en matière de jurisprudence. Ils ont déterminé que le voyage, il commence à partir de 86 km. D'où ils ont déterminé cette distance. Donc, le hadith, je l'ai trouvé dans un livre. Je recommande tout maliki l'avoir. Et certainement, ils l'ont. Je pense qu'il me l'avait montré une personne. Il est connu le livre Al-Fath al-Rabbani ala nazm Risalat Zayd ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Ça, c'est Ibn Zayd al-Qayrawani. Il était surnommé Malik al-Saghir, le petit Malik. Malik, celui le fondateur de l'école malikite. Il était appelé Malik al-Saghir. Il a fait un ouvrage bon, en matière de jurisprudence. Il a appelé Al-Fath al-Risalat ou nazm نظم رسالة زيد ابن أبي زيد القيرواني. Il a fait cet ouvrage qui dedans c'est une référence pour l'école malikite. Celui qui veut revenir au ce que les malikites ont comme avis concernant la matière de jurisprudence, qu'il revient sur lui. C'est parmi les ouvrages d'une malikite. Et à l'occasion, l'ouvrage Fath al-Rabbani ala nazm risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, en plus, cette édition que j'ai, elle est muhaqqaqa. C'est un ouvrage muhaqqaq, il est authentifié. Celui qui veut l'avoir, celui qui est dans l'école malikite, et je pense, tu l'avais montré, je crois. Voilà. Mais j'ai vu ceux qui l'ont, ils n'ont pas une tabar muhaqqaqa. Je vous conseille de toujours, quand vous achetez un livre, ou vous demandez un livre, revenez ou cherchez une édition authentifiée, révisée, vérifiée. Ça, il n'y a pas mieux que ça. Parce que des fois, on pense et on croit que c'est l'avis de telle école, et en réalité, ce n'est pas leur école. Ou des fois, on pense que l'argument il est sahih, mais en réalité, il n'est pas sahih. C'est pour ça, c'est un intérêt de revenir aux ouvrages qui sont muhaqqaqa, authentifiés, vérifiés. Donc, le Fath al-Rabbani, le frère qui va lui montrer, j'ai vu, il n'est pas muhaqqaq. C'est-à-dire, on ne trouve que des textes. Et en réalité, quand on prend une version authentifiée, vous remarquez, par exemple, sur cette page, on ajoute ce bout de paragraphe, la moitié ou plus que la moitié de la page, on ne trouve que du commentaire sur le paragraphe qui était cité par l'auteur. Donc, remarquez, vraiment, il est authentifié. Il détaille exactement est-ce que ce terme il est authentique ou pas. Donc, revenons. Et dedans, dans cet ouvrage malikite, il cite un argument, ou même si l'auteur qui l'a rajouté, il cite, il dit, ils se sont basés sur le hasar de Ibn Abbas. Ibn Abbas, rahimahullah, radiyallahu anhu, il a dit, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya ahla Makkah. » Donc ça c'est ce hasar, il est le base sur lequel ils sont basés pour déterminer que la distance du voyage c'est équivalent à 86 km. Donc le hasar est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ahla Makkah, les gens de Makkah, la taqsiru salata fi adna min arba'ati burudin min Makkata ila Asfan. » Rawahu al-Tabarani fi al-Kabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « gens de Makkah, les Mekwa, la taqsiru salata, ne raccourcissez pas la prière, moins de 4 burud. » Et on a dit, le 4 bouts, l'équivalent actuellement de cette mesure 4 bouts, c'est l'équivalent de 86 km. Min Makkata ila Asfan, de Makkah à Asfan, c'est-à-dire de ville qui est la première Makkah et de Asfan. Et on remarque le terme 4 bouts, donc les Malikites, ils se sont basés sur ce athar de Ibn Abbas, où le Prophète a dit, les Mekwa ne raccourcissez pas la prière moins de 4 bouts. Et je vous ai dit, il n'y a pas que les malikites qui ont cet avis, je vous ai dit, al-Shafi'iyya, al-Hanabila, al-Malikiyya, et pas même les autres sahaba, et même des savants contemporains, je vais vous citer leur nom, Inch'Allah, pour dire aussi que c'était un argument fort, c'est-à-dire ils ont des arguments. Mais les autres aussi, ils ont des arguments, et on va donner rapidement, Inch'Allah, l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Donc on remarque, ce hadith, on l'a entendu. L'avantage, si je me suis limité sur un livre, j'aurais trouvé que Wa'ani ibn Abbas qala Rasulullah sallam jusqu'à la fin du hadith. L'avantage, je suis retourné au commentaire sur ce hadith. Et en réalité, celui qui a authentifié le livre, c'est un professeur qui à Mecca, à Jami'at al-Qura, et même avec des autres ulama qui l'ont introduit, ils ont fait une introduction sur ce livre pour dire que c'est un très bon livre, et même en termes de commentaires, ils sont très très profitables. dans, sur le commentaire du hadith que je viens de lire, le hadith il a rapporté Tabarani fil Kabir, wa Dari Qutni, wa Al-Bayhaqi fil Kubra. Min tariq Ismail ibn Ayyash, an Abd al-Wahhab ibn Mujahid ibn Jabr, an Abihi wa an Ata, an ibn Abbas marfu'an bihi. Wa hadha al-hadith da'ifun li awjuhin. Celui qui commente le livre, il a dit, et en réalité, ce hadith il est faible. Pour quatre raisons. C'est pas la peine de, c'est pas l'objectif de citer les avis, mais quand même, il y a quatre arguments, quatre choses qui affaiblissent le hadith. Donc ça, au moins il faut savoir que même si l'imam al-Maliki et même les autres ils ont cet avis, et ce sont, c'est quoi leur argument? C'était ce hadith. Certains savants certainement, ils l'ont authentifié, donc c'est pour ça qu'ils se sont basés sur ça. Et parmi les savants qui l'ont authentifié, c'est, comme il est marqué, « قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث وإسناده صحيح » Et Ibn Hajar al-Asqalani, quand même, il a authentifié ce hadith. Pour dire, certainement, il y a plusieurs savants qui ont authentifié ce hadith et ce athar qui remonte au Prophète sallam, et parmi eux, c'est Ibn Hajar. Pour dire que le Malikiya, le Shafi'iya et le Hanabila, certainement, ils ont authentifié ces hadiths et des autres hadiths, mais parmi les hadiths de base, c'est ce hadith. Pour vous montrer que le Malikiyin, s'ils ont dit, ou les autres savants qu'ils ont dit, que pour déterminer la distance d'un trajet, on peut le considérer comme un voyage, c'est à partir de 86 km, quand même ils ont un argument. Et l'argument, c'est le hasard qu'on avait écouté, et quand même, et on a expliqué, certains savants ils l'ont affaibli, comme j'ai dit, il y a même certains savants, ils ont trouvé quatre remarques, ou quatre critiques sur la chaîne de transmission, même sur la chaîne de transmission du hadith. Et mais quand même, en revanche aussi, il y a certains savants qui l'ont authentifié. Donc on remarque que c'est un hadith, il est très important, et c'est lui vraiment qui tranche. Parce que d'où on peut déterminer, on a la distance de 86, c'est certainement les hadiths, et des fois, il peut avoir que les hadiths, ils peuvent se diverger sur l'authentification du hadith. Donc ça, c'est important. Donc si on entend une personne qui dit 86 km, il ne va pas lui dire non. Ça peut être son école. Une personne, il est débutant, il ne connaît rien. Ou peut-être il a vécu dans une il a choisi son école malikite parce que il a grandi, il a des bases malikites, on peut pas le blâmer, lui dire non, c'est pas considéré comme un voyage et ça peut engendrer plus que ça. On doit respecter cet avis, on a écouté, certainement ils ont des avis. En plus de leur argument, c'est-à-dire ce qu'ils ont choisi le malikite, aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع محرم. Un autre argument qui renforce l'avis malikite, que le hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, il n'est pas parmi une femme qui croit en Allah et au dernier jour qu'elle voyage un trajet de 12 jours sauf avec un mahram. On remarque ce hadith, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à la femme de voyager d'un trajet de 12 jours. Les savants, ils ont dit, ça déduit, ce qu'on peut tirer de ce hadith, que le fait qu'il a dit, il a interdit qu'elle voyage d'une durée de 2 jours, c'est-à-dire que la définition du voyage, elle est de 2 jours. Donc, le trajet de 2 jours, c'est un voyage, et on peut l'appeler, c'est un safar. Et les ulama, ils ont dit, certainement, la distance où, comment déterminer, on a 4 burud ou les 86 km, ils disent pendant ces 2 jours, on a, ça dépend d'une durée de 2 jours, il faut faire marcher des chameaux qui portent ils sont surchargés, moyennement, ils marchent pendant 2 jours. Apparemment, ils ont dit oui, et ça va vraiment, elle est pas loin d'une distance de 86 km. C'est-à-dire la distance de 4 burud. Donc remarquez que c'est un deuxième hadith sur lequel il se base. Et, pour vous donner plus que, pour être plus à l'aise, pour vous dire que cet avis, il est très fort, je vais vous dire qui a choisi cet avis, le fait que définir la distance de 86 km, c'est la définition d'un safar, d'un voyage. Écoutez, donc je vais les lister un par un rapidement. Parmi les sahaba, on a Ibn Abbas. Parmi les sahaba, on a Ibn Umar. Aussi, on a Al-Hassan al-Basari. Quatrièmement, on a l'imam Zuhri. Cinquièmement, on a Layth ibn Sa'd. Sixièmement, on a l'imam Malik. Septièmement, on a l'imam Shafi'i. Huitièmement, on a l'imam Ahmed. Neuvièmement, on a l'Ishaq. Dixièmement, on a Abu Thawr. ومن العلماء المعاصرين parmi les savants contemporains c'est on a l'imam mufti al-asr imam ibn Baz rahimahullah. Deux, on a la comité des grands savants al-lajma al-da'ima. Trois, on a Cheikh Abdel Aziz al-Rajihi. Quatrièmement, Cheikh Salih ibn Salih al-Fawzan. Donc eux on a cité parmi les sahaba et les écoles et des grands savants, et même les savants contemporains, que quand même, ils ont choisi cet avis. Et ne pas dire que non, on rejette cet avis, ou on dire, on affaiblit cet avis parce qu'ils n'ont pas d'argument. Non, ils ont cet argument, on doit le prendre en considération. Donc ça, en résumé, je vous dis, c'est en résumé, parce que celui qui veut aller en détail, qu'il revient au livre de Ibn Mundhir, qui est surnommé Al-Awsat, et dedans il va vous trouver 20 avis, et chacun, chaque avis avec le argument, et celui qui veut aller même plus que ça, qu'il revient au l'ouvrage de Al-Muhalla de Ibn Hazm, Al-Zahiri, où s'il a vraiment discuté un par un, il réplique sur chacun, etc. Pour dire que vous avez vraiment, on peut trouver des ouvrages qui ont traité ce point, qui est vraiment très important. Donc ça, On a dit le premier avis, qui a choisi cet avis, sur quoi ils se sont basés. N'est-ce pas, Maliki? Hein? D'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui ont cet avis Maliki, comme ça, on va contenter tout le monde. C'est pas, on va rejeter leur parole, on va dire non, ce que vous dites, c'est, il n'y a pas d'argument si. Ils ont d'argument, on a écouté même des sahaba, les savants, etc., leur avis. Donc ça, c'est le premier avis concernant parmi les avis ou parmi les définitions du voyage, qui est déterminé par la marche ou le fait de marcher d'une durée de 2 jours par des montures ou par des chameaux surchargés, et ça revient, cette distance elle revient, elle est équivalente à 4 bourouds, qui est équivalent à 86 kilomètres. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis aussi qui est très répandu, oui, je pense que la majorité qui sont assis, ils ont choisi, ils connaissent cet avis, et c'était la première réponse qu'on a écoutée, c'est le fait, donc la deuxième, parmi les définitions, je cite que ceux deux, donc le premier on a cité, c'est par rapport à la distance de 86 km. Le deuxième avis, c'est, certains savants, ils ont dit non, vu que les hadiths, ils ont répliqué sur le même sujet de hadith, ils ont dit le premier hadith, il est faible. Ils ont dit, votre hadith, vous dites que Ibn Abbas, il a dit, oh, ou le prophète, il a dit, oh, ya ahla makka la taqsiru aqalla min adna min arba'i burud, il a dit ça, ce hadith, qu'on a cité, ils ont dit, il est faible. Ils ont affaibli ce hadith, ils ont dit, pourquoi il est faible, ils ont cité 4 critiques sur la chaîne de transmission. Eux, ils l'ont affaibli. Deuxième hadith, concernant la femme qui voyage, quand on a entendu que la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmayn illa bimahram. Ça, ce hadith, ils ont dit, malheureusement, il n'y a aucune définition du voyage dans ce hadith. Ils ont dit non. Ils ont dit, c'est vrai, le hadith, il interdit que la femme voyage si le voyage, il a une durée de 2 jours. Mais ça n'implique pas forcément que la définition du voyage, c'est le fait de marcher 2 jours. Donc on remarque qu'ils ont répliqué aussi quand même sur ces arguments aussi, et l'argument il est fort. Et je vais citer aussi qui a dit cette parole, c'est pas moi qui réplique, mais il y a des savants et même des sahaba, ils ont dit autre chose. Parmi cet avis, je vais vous citer, c'est la deuxième définition qu'on va citer parmi les définitions, c'est ما اعتبره الناس عرفا سفرا فهو سفر. Les savants, ils ont dit, Si les gens considèrent que tel trajet c'est un voyage, on le considère comme un voyage. Soit il est moins de 86 km, soit il vaut l'équivalent à 86 km, soit il est plus que 86 km. Et ça, quel est leur argument? Leur argument, ils sont appuyés sur les. Ils ont dit, le premier argument, c'est qu'il n'y a aucun argument qui définit la distance du voyage. Ad-dalil, adam urud ad-dalil. Et ça, c'est aussi une qaïda. C'est quoi l'argument? Ben, ils disent qu'il n'y a aucune. Il n'y a aucun hadith qui définit ou qui précise que la durée du voyage, elle est 4 burud, ou elle est définie par, soit par une distance, soit par un temps. Il n'y a aucun hadith. Et les hadiths qu'on a entendus, ils ont rejeté, ils ont répliqué, comme on avait écouté, le premier l'ont affaibli, le deuxième ils ont dit non, c'est pas un argument parce que il n'y a aucune définition. C'est un jugement pour la femme, mais ça n'implique pas que c'est une définition du voyage. Donc ça, c'était leur argument. Et aussi, ils ont dit, donc le premier argument, ils ont dit, il n'y a aucun dalil clair qui définit la distance du voyage. Deux, ils se sont appuyés sur les hadiths généraux. Vraiment des hadiths qui parlent sur le voyage. Mais dans tous les hadiths qui traitent le sujet du voyage, il n'y a aucun hadith dedans. Il précise, il détermine ou il donne vraiment une précision sur la définition du voyage, soit par rapport au temps ou à la distance. Il n'y a rien qui prouve. Trois, leur argument aussi, et aussi ils ont des arguments, hein, il ne faut pas les négliger, ils ont dit que déjà il y a une divergence entre Sahaba. Sahaba se sont divergés énormément. Et je dis énormément. C'est pour ça que je dis quand l'imam Ibn Munzir, il a dit il y a 20 avis, 20 définitions, c'est pas pour rien. Ils ont dit les sahaba, il y a une énorme divergence dans ce point, qui prouve que le Prophète sallam, il n'a pas donné une définition. Pourquoi les sahaba, ils se divergent, si le Prophète sallam, pourtant, les sahaba, ils ont rapporté beaucoup, et les hadiths, ils sont nombreux concernant le voyage, mais dans la définition, il n'y a rien qui est rapporté dans les hadiths. Aucun hadith. C'est même pas aucun. Aucun hadith qui vraiment il est authentique, où les savants ils sont unanimes le fait qu'il y a une définition claire, évidente sur le voyage. Et leurs arguments, ils sont nombreux. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, s'il n'y a pas la définition dans le Coran, si on n'a pas de définition dans le Sunnah, si les sahaba ne sont pas unanimes, parce qu'on a dit l'ijma, c'est une preuve. S'il n'y a pas une unanimité sur la définition de la distance ou par laquelle on peut considérer tel trajet un voyage, c'est-à-dire les sahaba ils n'étaient pas d'accord, là on revient à la langue arabe. Dans la langue arabe, si on revient au terme safar, dans tous les ouvrages de la langue arabe, dans le Qawamis, si on revient en termes littéraires, la définition du terme al-qasr ou al-safar, il n'y a rien qui détermine. On ne trouve aucune définition par rapport au temps ou à une distance qui définit le voyage. Ah, il reste le dernier argument, c'est quoi? Ni Qur'an, ni Sunnah, ni l'Ijma, ni Muqtada al-Lugha. On n'a pas trouvé ni dans le Coran, ni dans le Sunnah, ni dans l'Ijma' al-Sahaba, ni l'Ijma' ni dans la langue arabe la définition la distance exacte pour le voyage. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Na'am narja ila al-'ada aw ma yusamma bil-'urf, al-'ada ou al-'urf sawa'. On revient aux traditions. C'est-à-dire traditionnellement, comment c'est considéré. Donc, ça, c'était leur argument. Leur argument, on a écouté qu'ils ont dit, il n'y a aucun dalil, les hadiths ils sont généraux, les sahabes, ils ont pas rapporté aucune définition de la distance du voyage, il y a beaucoup, beaucoup d'arguments, la divergence des sahabes entre eux, etc. Donc, ils ont dit, on revient au urf. Tout ce qui considère entre les gens un voyage, ben, on le considère comme un voyage. Est-ce que c'est clair cette définition ou pas? Parce que la première considérée par 86 km, c'est simple. Bah, tu regardes combien entre Paris et Lyon. On a combien de distance entre Paris et Lyon? Hein? C'est loin quand même. Hein? 400, on va dire plus que 400. Tu dis, bah, 400 c'est simple. Ça c'est le Maliki, hein? Ça c'est le Maliki, c'est simple pour lui. Il va dire c'est 86 km, moi je crois que c'est un voyage. Pour ceux qui ont le deuxième avis. Parce que leur avis, il est fort. J'éclaircis un point. J'ai dit au début qu'il n'est pas recommandé, il n'est pas conseillé de donner citer les divergences. Mais j'ai dit, à cause que vous n'avez pas la même avis, il y en a qui ne connaissent pas du tout, il y en a qui ont un niveau, il y en a qui ils ont des connaissances sur le terme de distance de voyage. Donc je répète, celui qui a l'école malikite, il peut rester avec son école malikite, rien qui l'empêche, s'il est convaincu. Et après, si il est convaincu par le deuxième argument, il est mieux qu'il choisisse le deuxième argument. On ne dit pas que je blâme le malikite ou je blâme ceux qui ont le deuxième avis. Non. Ceux qui ne connaissent rien, moi je vais vous dire, je choisis le deuxième avis dans lequel il n'y a aucune définition. Et je vais vous citer les paroles des savants qui sont choisies. Ce n'est pas moi qui ai choisi, même si il va me dire, moi je suis plus à l'aise imam malik. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, on ne revient pas aux paroles des savants, mais on revient aux paroles du prophète. Si les savants ils ont dit que le hadith il est faible, et tel point, pourquoi, là on revient, il faut reconnaître que le hadith il est faible, il ne faut pas trouver des autres arguments. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent rien, ils choisissent l'argument le plus fort pour eux, ou ils se sentent plus à l'aise, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et ceux qui veulent rester sur l'avis malikite, qu'ils restent, il n'y a rien de grave. Donc revenons, le deuxième avis que je citais c'est
وهو من أهم الأقوال القول أن القصر يجوز في أي سفر طويلا كان أو قصيرا ولا حد له وأقله الميل قال ابن حزم وقيل بل ثلاثة أميال وقيل الأحوى ثلاثة فراسخ ها قال بهذا القول.
Donc on remarque que la deuxième définition, comme elle dit, que si les gens considèrent tel trajet c'est un voyage, on le considère comme un voyage. Là, on va détailler comment on peut considérer, ou comment les gens peuvent considérer, ou comment nous, on peut déterminer si c'est un voyage, par rapport à la deuxième définition. Qu'on revient au urf an-nas, aux traditions des gens. Par exemple, moi, je veux voyager. Moi, je veux aller de Corbeil vers les Mureaux. C'est ça? Ou Mont-de-la-Jolie, par exemple. Parce que je connais que Mont-de-la-Jolie. Allah Akbar. Est-ce que je considère ça, c'est un voyage. Sachant que moi, j'ai le deuxième avis. Je choisis que la deuxième définition, que si les gens considèrent que c'est un voyage, j'applique les règles du voyage sur ce trajet. Je suis pas malikite. Supposons. Celui qui est malikite, c'est ça. Il va dire, entre Paris, entre Corbeil et Mureaux, c'est moins de 80 km. 86 km, certainement. Hein? Les Mureaux. Moins. Voilà, je sais que c'est moi, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Les malikites, ils vont dire, ou même Shafi'i, ils ont cet avis, et les hanbalites, ils ont cet avis. Hein. Je précise ici, quand je dis malikite, parce que par rapport à ceux qui sont assis avec nous. Un malikite, il va dire, moi, c'est moi 86 km, c'est simple pour moi, c'est pas un voyage, allez, je prends la voiture et bismillah. Oui ou pas? Masha'Allah, barakallah. Ceux qui ont la deuxième définition, et c'est la définition que je choisis, parce que j'ai trouvé en termes d'argument, c'est plus argumenté, mais je dis à la fin, Allahu A'lam. Donc, je choisis cet avis que ma ta'arafa alayhi an-nas fa huwa safar. Si les gens le considèrent comme un voyage, moi j'applique les règles du voyage, comme on l'avait expliqué. Est-ce que je peux considérer ça, c'est un voyage de partir de Corbeil au Mureaux? Pourquoi? Samir, il a dit, parce que pour les gens, ce n'est pas un voyage. Comment on peut aussi... Il y a des choses qui vraiment prouvent cela. Rabama. Non. Peut-être les gens, ils le font par orphan, etc. Il y a autre chose aussi. T'es pas loin, mais quand même. Hein? Non, je sais ça, mais on va parler sur ce point. Hassan. Si? Masha'Allah, barakallah. C'est la bonne réponse. Cheikh Jami Zaymiyah, on va citer la parole rapidement, même Cheikh Jibrin, etc. On va citer leur parole. Ils disent, si, déjà, dans l'expression, on dit je voyage. Oui ou pas? Parce que quand je vais, par exemple, à Corbeil, ou à Ivry, ou à Juvisy, je dis je monte à Paris. Je vais à Paris. Oui ou pas? Parce que les gens, ils ont utilisé cette expression. Mais par contre, si c'était un voyage, est-ce que je dis je vais à Marseille? Non, on va utiliser Ranim Sefer il a Marseille. Oui ou pas? Même en argot, pas forcément en français, même en parlant, je dis Ranim Chowar ou là, ou Ranim Raïh, Ranim Ba'ad, ou Ranim. Ils utilisent des termes, même soit en argot, soit en arabe, soit en français, n'importe quelle langue. Ils utilisent des termes qui sous-entendent que c'est un voyage en réalité. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils disent un voyage, déjà tu te prépares. Est-ce que d'ici à Marseille, j'allume ma voiture et je vais à Marseille? Et ça. Il faut que tu voyages. Parce que Issa, il m'a dit, il n'a jamais voyagé. Il faut qu'on lui paye pour qu'il voyage. D'accord. Il a dit, donc vous remarquez, des fois même personnellement, on se prépare. Parce que quand je vais à, par exemple à Ivry, ou je vais à Paris, je prends ma voiture, j'allume et je roule. J'y vais. Des fois, on ne fait même pas les adieux. Ta femme, tu ne vas pas lui dire... tu laisses une wasiya, tu laisses ton argent, tu prépares ton argent, tu te prépares vraiment, tu te prépares. Même physiquement, psychologiquement, financièrement, moyen de transport, tout. Vraiment, tu remarques, on se prépare pour le voyage. Toutes ces choses permettent de définir un voyage. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, mais comment on sait que les gens considèrent? C'est simple. Tu demandes n'importe qui, tu dis, toi, si tu vas à Marseille, tu fais quoi? Il va dire, bah... je vais faire les adieux avec, je vais dire adieu à ma femme, je vais préparer, je vais penser au transport, la voiture, je la contrôle, je mets un plein. Vraiment, on se prépare pour faire ça. Certainement, c'est un voyage. Parce que ce n'est pas un voyage. Si on fait des allers-retours à Ivry, par exemple, comment on peut considérer ça? Corbeil, Ivry, c'est un voyage? Non, parce qu'on prend la voiture sans même pas prévenir la personne. Tu prends la voiture. Mais par contre, si on fait un voyage, certainement, on se prépare. Et ça, traditionnellement, on remarque. C'est souvent quand on va voyager, c'est vraiment, on fait dua à la personne, on fait dua aux gens que je vais voyager, qu'est-ce que tu veux, tu demandes dua pour ceux qui voyagent. Déjà, sans faire attention, on le fait. Et cela, il prouve que c'est un voyage. Parce que c'est un voyage, c'est pour ça qu'on fait ces choses. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, et autres savants, ils disent, c'est l'argument le plus fort. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais défini, ou il a donné une définition exacte et claire sur le voyage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient au urf. Et cet avis, elle regroupe tous les hadiths concernant sur. Parce que des fois, il a voyagé plus que. Le prophète, il a raccourci la prière quand il a fait plus que 4 bourds, c'est-à-dire plus que 86 km. Une fois, il y a un hadith, il a dit quand il a fait 3 miles, c'est ça? Salat amiel. Moi, je dis 3 miles, mais ça se dit pas. 3 miles. Équivalent combien de kilomètres? 1,6 fois 3. Ah, mashallah, on a des calculatrices, mashallah. On va dire 5 kilomètres. Et même le prophète, il y a des athars, il y a même des hadiths, il dit que même le prophète, quand il a fait un voyage de 5 kilomètres, il a raccourci la prière. 5 kilomètres, il a fait. Il a 86, il a fait. Plus que 86, il a fait. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah et même les savants, ils ont dit, certainement, c'est pas la distance qui détermine le voyage, mais parce que c'était considéré de se déplacer de tel endroit en tel endroit, c'est un voyage. C'est pour ça que le Prophète, il a raccourci la prière. Et Cheikh Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, et je vais citer les noms des savants, comme j'ai cité la première, avec cette définition, et que je trouve la plus forte en termes d'argument, l'argument, parce qu'il n'y a pas d'argument, qu'on va expliquer, hein. En termes d'argument, en termes de regrouper tous les hadiths et regrouper tous les avis des sahabes, etc., c'est l'avis que je choisis, Wallahu A'lam. Donc, parmi les savants qui ont choisi cet avis, je vais vous citer Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a choisi cet avis. Aussi, Ali ibn Abi Talib, il a choisi cet avis. Troisièmement, Ibn Mas'ud, in sahhihi riwaya. Quatrièmement, Anas ibn Malik. Cinquièmement, Sharhabil ibn Sabt. Sixièmement, Ibn Omar. Aussi, il a une autre avis, parce qu'on a dit, lui aussi, il faisait partie avec Ibn Abbas et Ibn Omar. Ils ont choisi la première avis, mais quand même, aussi, dans un autre, dans un autre texte, il prouve qu'il a choisi cet avis. Le fait que tout ce qu'il considère les gens comme un voyage, on le considère comme voyage, comme en vénicité. Aussi, septièmement, Dahiya ibn Khalif al-Kalabi. Huitièmement, Sa'id ibn Musayyib. Neuvièmement, Abdullah. Dixièmement, Qubaysa ibn Fu'ayb. Onzièmement, Al-Baqir. Douzièmement, Al-Sadiq. Treizièmement, Al-Sha'bi. Insahati al-Riwaya. Quatorzièmement, Ibn Hazm. Quinzièmement, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Seizièmement, Ibn al-Qayyim. Dix-septième, Ibn Qudama. Le dix-huitième, l'imam Shukani. Dix-neuvième, l'imam Sanani. Vingtième personne, ou vingtième savant, Al-Qannouji, sahib al-Rawd al-Nadiyya. Numéro 21, Ibn al-Qasim. Numéro 22, l'imam Sa'di, Nasir Sa'di, rahimahullah. 23e, Mohamed Ibrahim al-Sheikh, l'ancien précédent mufti, qui est le Sheikh de Sheikh Nobaz, rahimahullah. Aussi, 24e, Abdullah ibn Muhammad, rahimahullah. 25e, Abdurrahman al-Dusiri fi tafsiri. 26e, Ibn al-Uthaymi, rahimahullah. 27e, Ibn al-Jibrin. Et 28e, Abdullah ibn Aqil. On remarque, tous ces savants que j'ai cités, ils ont choisi cet avis pour dire aussi, ce n'est pas qu'une seule personne, plusieurs savants, ils remarquent, c'est les savants les plus, ceux qui ont vraiment authentifié, ils ont cherché plus en termes d'arguments cet avis. Donc, ça, rapidement, en gros, même si j'ai exagéré en citant leur nom, mais quand même, il faut le savoir que ce n'est pas un argument facile, mais je vous dis, on a cité presque 28 savants qu'ils ont choisi cet avis. Même si cet avis est contredit l'avis de Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed. Pourquoi? Parce que nous, on doit savoir que nous, si on revient, on revient aux arguments du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne revient pas aux paroles des savants aveuglement. On dit c'est vrai, huma ala ar-ra'si wal 'ayn. Mais si on a la capacité d'atteindre est-ce que le hadith il est authentique ou pas, c'est plus prioritaire de se limiter, c'est-à-dire à limiter à l'étape, la parole du savant et je m'arrête. Non. Ça, si on ne connaissait pas, si on est vraiment dans une nécessité, en difficulté, où il n'y a pas de savant, etc., là, on peut imiter peut-être une école ou un savant. Mais à partir du moment où on a la possibilité d'atteindre un niveau et de demander les savants, est-ce que l'argument il est faible, est-ce qu'il est authentique? Même s'il est authentique, est-ce que c'est un argument? Les autres, est-ce qu'ils ont des arguments? Comment on peut regrouper l'ensemble des arguments, etc.? C'est plus prioritaire de se limiter à la preuve. Mais c'est cas par cas et chacun a sa capacité dans ce qu'on vient de dire, Inch'Allah Ta'ala. Et leur parole, c'est-à-dire le deuxième avis, elle est longue, elle est carrément, j'ai plusieurs feuilles, plusieurs pages qui détaillent leur avis, leur argument, etc. Mais quand même, j'éclaircis ce que j'ai dit et comment ils ont répliqué sur les autres arguments. On a dit, si les gens le considèrent comme un voyage, même dans l'expression, l'utilisation, ils le considèrent un voyage parce qu'ils prononcent « je voyage à Paris, je voyage à Marseille, je voyage ». Par contre, ou « je voyage dans un autre pays », certainement, mais c'est pas parce que... Pourquoi? Parce que si l'on considère par rapport au temps, hein, il va me dire, mais de toute façon, une heure, c'est pas un voyage. Je vais dire non. Parce qu'avec l'avion, on peut faire une heure. Mais quand même, avec une heure, on peut faire des trajets, des milliers de kilomètres. Donc on remarque que ce n'est pas le temps. Et quand même aussi, ce n'est pas la distance. Parce que la distance, si on dit la distance, dans ce cas, faire vraiment des... supposons, je vais faire 4 allers-retours en Algérie. Paris-Alger, Alger-Paris. 4 retours. Dans ce cas, si on se limite à ce qu'ils disent, ce n'est pas considéré comme un voyage. Comme il a dit, Cheikh Islam, il a donné une règle générale, il a dit, et même sur le Thamine, il a cité, ils ont dit une règle مده طويله في مسافه قصيره بمعنى انه ذهب الى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين او ثلاثه فهذا سفر فلو ذهب انسان من عنيزه الى بريده مثلا ليقيم ثلاثه ايام او يومين او ما اشبه ذلك
أشبه ذلك فهو مسافر. رابعا مدة قصيرة في مسافة طويلة كمن ذهب مثلا من القصيم إلى جدة إلى في يومه وراجع فهذا يسمى سفرا لأن الناس يتأهبون له ويرون أنهم مسافرون. Et la réponse est الشرح الممتع.
Si vous, c'est pour ça que je dis celui qui veut que je lui fasse une photo un exemplaire, inchallah, il me dit, comme ça je lui donne l'exemplaire, c'est plus détaillé et on n'aura pas vraiment le temps pour déterminer ça. Pour vous dire, et il faut enfin résumer que le deuxième avis, il concerne que si les gens considèrent comme c'est un voyage, on le considère comme un voyage, peu importe la distance ou le temps. Peu importe la distance ou le temps, comme on l'avait exposé. Et comment savoir, on revient aux gens, on demande les gens, est-ce que, et même, certainement, on se prépare pour quand on, si c'est un voyage, même sans connaître un voyage, on se prépare, physiquement, financièrement, on prépare beaucoup de choses pour le faire, et tout cela prouve que c'est un voyage. Donc ça, c'est le résumé concernant ces deux avis, et je me limite à ça, et pour avancer sur les autres points qui nous restent. Est-ce que c'est clair les deux avis qu'on avait cités? Samir. Donc c'est bon. Là, c'est le point qu'on va aborder par la suite. Et il dit, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent des mois, ils partent dans un autre pays, par exemple. Ils restent dans le pays et ils disent que moi, je suis toujours voyageur. Est-ce que c'est juste de le dire? Est-ce que c'est correct? Non, non, ne réponds pas parce que je t'ai donné la réponse. Il reste 2 mois, 3 mois, ils disent pendant les 2 mois, moi je suis voyageur, je pratique les règles du voyage. Oui ou non? C'est le point qu'on va aborder, qu'on va parler. Juste le point d'après, parce que le point suivant il est simple. Mata yabda al-musafir al-qasr. T'auras dit oui. Donc certainement il y aura soit oui, soit non. Et moi je veux dire ni oui ni non. Ça va dire là, qu'est-ce que je veux dire? Ni oui ni non. Oui dans un cas, non dans un cas. On va l'expliquer, Charles. Le deuxième point qu'on va l'aborder, les cours, il n'y a rien de particulier. Donc on a su quel est le jugement de raccourcir. On a expliqué c'est une sunna. Et l'afdal, l'an al-muslim yaqsur fi safarih. Le deuxième point qu'on vient d'aborder aujourd'hui, c'est on a donné la définition parmi les définitions qui déterminent la durée du voyage ou la définition du voyage, soit par rapport à distance ou soit par rapport au urf des traditions. Le troisième point qu'on va aborder, quand est-ce que je peux faire la prière du voyageur? Supposons que là, je suis à Corbeil. Je vais voyager à Marseille, comme ça on est tous d'accord sur le terme. Je vais voyager à Marseille, je suis préparé, c'est bon, allez. La prière du dhuhr à 14h, c'est un exemple, c'est aller à 14h, et moi je suis 13h30, je suis chez moi, je suis toujours à Corbeil. Quand est-ce que je peux commencer et raccourcir les prières? C'est bon, je suis préparé, tout est prêt, je suis 1h30, je suis toujours chez moi. Je ne dis pas pourquoi. Et donc la question qui se pose, ou la question générale, quand est-ce que mata yabda al-qasr? À partir de quand il commence, c'est-à-dire physiquement, c'est-à-dire en termes de géographique, à partir de quand je commence? Est-ce que quand, à partir du moment où je suis préparé, j'ai nié du voyageur, je peux raccourcir les prières et je voyage, est-ce que quand je sors, quand je m'éloigne des l'Amara, de, non, pas la ville, les constructions, hein? Je m'éloigne des constructions autour les immeubles qui sont autour de ma résidence, ou à partir du moment où je sors complètement de Corbeil, ou je sors de département descendre, c'est ça la question. Quand est-ce que je peux commencer à raccourcir la prière?
Moi j'ai vu que l'imam Nawawi disait que pouvait le faire même avant de partir. Mais quand j'ai lu, j'ai vu des répliques de savants qui disaient que ça donc c'est à dire qu'il y a cette avis là, donc c'est pour ça que je veux dire ça. Lui il a dit que tu peux le faire avant, mais beaucoup de savants ils ont dit, la plupart des savants ils ont dit que c'était parti quoi.
On n'a pas une réponse claire et détaillée. Barakallahu fik. Naam. Parce que il a dit, tant que tu es sorti de la maison, il y a plusieurs cas. Parce que sortir de la maison, ça c'est le premier cas, sortir de ton immeuble, tu es déjà sorti de ta maison, sortir de des immeubles, t'es éloigné, t'es sorti de ta maison, t'es sorti de ton quartier, t'es sorti de la maison, ça peut... Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs sawar, il y a iddat sawar, ou il y a iddat sawar.
Quand tu sors
de ta
villa,
hein? Quand
tu sors de ta villa,
ça c'est mahal khilaf. Ça c'est mahal khilaf. C'est une divergence dans ça. Lui il dit, si tu sors de ton village, c'est une réponse, on peut dire correcte. On va lire, non, qu'est-ce que je voulais proposer, Samir? Ou qu'est-ce que tu fais tout simplement, comme ça? Non. Là, en réalité, non, c'est pas une bonne réponse. Non. Ce que je vais lire, il va vous éclaircir, il va répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que dit l'imam Nawawi? On va écouter après, inchallah, peut-être ça va répondre à la question.
Ajma'a أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة عمران بلدته.
Donc, il a dit, les gens de science, ils sont unanimes pour que le voyageur, il est autorisé pour le voyageur qu'il commence, à raccourcir sa prière après qu'il a quitté les immeubles de son pays, de sa ville. Notre cas, c'est-à-dire le fait qu'on sort des Tarterets, pas de Corbeil. Parce que nous, on habite au Tarteret. Corbeil, c'est grand. À partir du moment où on sort de Tarteret, tu peux te considérer, c'est-à-dire tu es sorti pas de chez toi, on connaît Tarteret. Chacun il sait où il habite, c'est-à-dire le village où il habite. À partir du moment où il quitte les immeubles de son village où il habite, cela il peut commencer le qasr. Même les savants disent, même s'il voit toujours les immeubles, parce qu'il y en a les conditions, non, il faut que tu t'éloignes vraiment. En fait, non. À partir du moment où tu as quitté où tu habites, c'est-à-dire pas la maison, mais comme il a dit, Imran Beldati, tous les immeubles de son village où il habite, à partir de ce moment-là, il peut commencer à raccourcir. Certains savants, comme il a dit, il y en a, ils ont autorisé même de raccourcir même à partir du moment où il a Niya, mais en réalité, pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'ils ont dit, quand est-ce qu'on devient voyageur? Est-ce que c'est avec Nia ou est-ce que c'est avec en quittant l'Imran? Donc si lui il définit le voyage, si à partir du moment où tu as Nia du voyageur, tu es considéré comme un voyageur. Est-ce que c'est clair? À part t'as l'intention, donc à partir du moment, tu as l'intention, donc là tu peux faire parce que tu es voyageur. Donc les prières, tu vas les faire la prière d'avant un voyageur, parce que t'es toujours voyageur. L'autre avis qu'on vient de citer, c'est pour citer, à part du petit kit, parce que tant que t'as pas quitté, t'es pas voyageur, même si t'as vu la niya, parce que c'est clair. Parce que tant que je suis pas sorti, c'est pas vraiment, j'ai pas voyagé. Je suis chez moi, j'ai l'intention. Est-ce que je suis vraiment voyageur? Certains ils disent non. Non, à partir du moment où tu quittes les immeubles de ton village. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est l'avis qu'on choisit concernant quand est-ce qu'on commence le voyage. Le troisième point, et il est important, très important, muddat al-qasr. Quelle est la durée dans laquelle je peux toujours faire ou toujours raccourcir mes prières? C'est bon, on a su la définition du voyage. Quand est-ce que je peux considérer cet trajet un voyage? On a su à partir de quand je peux commencer à faire ou commencer à raccourcir. La question, la durée dans laquelle je peux toujours raccourcir ma prière. Je donne un exemple. Je pars d'ici, de Corbeil. Je voyage à Marseille. Je reste, on va dire, 2 mois. Est-ce que pendant tous ces 2 mois, je peux toujours raccourcir ma prière? C'est la question. Non, Salah. C'est pourquoi? Parce qu'il a voyagé dernièrement, donc je lui ai donné la réponse. Donc c'est pour ça qu'il connaît. Inch'Allah.
Si tu vas à Marseille, non. Tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, et que tu as terminé la question de rentrer demain, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, tant que tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres,
d'accord. Qui a autre chose? On va. Barakallahu fik. Hein? 4 jours. Ça se voit, les Malikites, ils sont toujours studieux, mashallah. Quand il dit Maliki, il est Maliki, vraiment dans le sang, hein. C'est pas avec la. Il est Maliki, hein? Mashallah, barakallah. Jazakallah, frère. Alors, à l'occasion, si. Je trouve, je t'offrirai peut-être un jour le Fath al-Rabbani.
Non, mais cette question-là, on a vu que ça.
Déjà,
c'est arrivé après.
Hein?
Le livre que vous lisez là.
Non.
C'est pas basé sur celle-là, on le connaît.
Lequel? J'ai pas entendu.
C'est le pays africain.
Oui, je sais. Mais je sais, eux, ils reviennent à Fath al-Rabbani de Ibn Zayr parce qu'il est surnommé le Malik al-Saghir. Les ulama ils l'ont surnommé, subhanallah, le Malik al-Saghir. Il n'était pas loin d'être Malik. Et donc, lui, il a cité 4 jours. Qu'est-ce que vous faites, tout simplement? Il n'y a pas de mal si vous avez fait des choses que. Aujourd'hui, on va apprendre, il n'y a pas de mal. Hein? 3 jours, taïf. Un, il a dit 4 jours, un, il a dit tant que tu ne sais pas, tu. Naam, cher. تقصر حتى الرجوع يحتاج الى تفصيل الى دي tu raccourcis tant que tu n'es pas revenu hein non en réalité c'est pas ça hay نعم toi tu m'as posé la question je pense avant ah Issa t'as vu il me pose des questions et après dans le darsi non je sais la alayla. On va le détailler, inchallah ta'ala. Ça aussi, c'est un point où il y a beaucoup, on a quoi à dire sur ce point. Si chaque fois on va le détailler, donner les divergences, l'avis le plus fort, on ne sortira jamais. Je vais vous donner l'avis le plus juste qui s'appuie sur des arguments. Et vraiment, il est argumenté. Et même la communauté des grands savants, l'ajna da'ima, ils ont, dans leur fatwa, que demain, inshallah, on va écouter, inshallah, ils ont choisi cet avis. L'avis est le suivant. Muddat al-qasr. Donc, il y a plusieurs avis. Et juste en faisant des notes, en prenant des notes, il y a beaucoup de hadiths concernant, parce que ça, c'est tiré, on va les tirer des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté combien de temps dans le voyage, ou il a duré combien son voyage, et pendant tout ce voyage, il faisait toujours, il raccourcissait sa prière. On trouve beaucoup de hadiths. Il y a des hadiths qui montre que pendant les 4 jours, pendant 4 jours, il a raccourci sa prière, ensuite il a pu raccourcir sa prière. On a un hadith, il dit, et hadith, il y a le hadith de Anas ibn Malik, on a le hadith d'Abdullah ibn Jabir, on a le hadith d'Ibn Abbas, il y a beaucoup, beaucoup de hadiths. Ce n'est pas l'occasion de les citer un par un, mais juste un résumé. Il y a des hadiths qui citent qu'à partir de 4 jours, pendant 4 jours, il a raccourci sa prière, ensuite, après le 4e jour, il complétait sa prière normale pendant toute la durée de voyage. Il y a aussi un hadith qui montre que le Prophète, il a raccourci sa prière pendant que 10 jours. Des autres hadiths qui montrent que 15 jours. Il y a des hadiths 19 jours. Il y a des hadiths 20 jours. Et c'est l'avis qu'il a choisi Ibn Hazm. Et etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de hadiths. Mais l'avis le plus fort, et c'est pour ça que je dis c'est la communauté des grands savants qu'ils ont choisi, ils ont choisi l'avis, en réalité c'est le minimum qui est 4 jours. Le minimum c'est 4 jours. Donc je vais vous lire le on va détailler. Muddatul qasr, la durée du qasr, le fait de raccourcir la prière. إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَقْصُرْ. إِذَا نَوَى, écoutez très bien, إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَقْصُرْ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْجَمْهُورِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ قَالُوا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. والحنابلة حددوها بإحدى وعشرين صلاة واستدلوا بما يلي. Donc l'avis qu'on choisit c'est si à partir du moment s'il n'avait pas fait l'intention de résider plus que 4 jours, il ne raccourcit pas la prière. Donc ça c'est une contrainte, c'est une condition que déjà il faut savoir est-ce qu'on a l'intention de résider. Deux, si on a l'intention de résider plus que 4 jours, on ne raccourcit pas la prière. Est-ce que c'est clair? Donc ça, à part du moment si celui qui a compris ces deux choses, avoir l'intention de résider et à condition que résider plus que 4 jours. À partir de ce moment, on ne raccourcit pas la prière et c'est l'avis le plus juste et on aura l'occasion de lire des fatwas de la Jannah d'Aïma qui rejoint ce qu'on vient de dire. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, quand la personne a dit, des gens ils voyagent en général, ils restent un mois, deux mois. Et ils disent, moi je suis toujours un voyageur. Non. C'est pour ça qu'il y a le cas qu'il a cité le frère, il a dit, donc remarquez très bien, si on a l'intention de résider plus que 4 jours, là on ne raccourcit pas la prière. Revenons. Celui qui reste 2 mois, il a accroché la prière ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a l'intention de résider. Je vais détailler. Il a l'intention de résider. Et en plus que 4 jours, là, il ne raccourcit plus. Est-ce que c'est clair? Sinon, il raccourcit. C'est-à-dire, dans quel cas, il peut raccourcir?
Il n'a pas l'intention de résider.
On commençait par le premier. Il a l'intention de résider, mais il n'a pas atteint 4 jours. Par exemple, je voyage, je vais résider à Marseille 3 jours. Je vais résider 4 jours. Je vais résider 2 jours. Je vais résider une journée. Donc j'ai l'intention, mais je ne réside pas, c'est-à-dire je ne reste pas une durée supérieure à 4 jours. Pendant ces 3 jours, pendant la journée, ou le deuxième jour, ou même le troisième jour, même le quatrième jour à la limite, c'est pendant tout ce temps, je peux raccourcir ma prière. Est-ce que c'est clair? Mais à partir du moment où tu as l'intention de résider plus que 4 jours, là, tu ne raccourcis pas. Un autre cas. Si je n'ai pas l'intention de raccourcir, mais je vais rester plus. Je n'ai pas l'intention de résider. Mais j'ai resté plus. Est-ce que j'ai resté? Est-ce que je raccourcis ma prière? Non. J'ai pas l'intention Je donne un exemple. Je pars à Marseille aujourd'hui. Pourquoi? La raison est la suivante, c'est parce que il y a le pour aller récupérer au port une marchandise. Une marchandise. J'ai acheté, je sais pas quoi, je pars pour récupérer une marchandise. Quand est-ce qu'elle arrive cette marchandise? Elle arrivera demain, Inch'Allah, au Maghreb. Je pars maintenant, donc pendant tout le trajet, je suis voyageur. J'ai resté là-bas, j'attends. Là, je suis arrivé demain matin ou demain vers midi, je suis arrivé. Normalement, je suis au Maghreb, là, j'attends, je fais mes prières. Au Maghreb, la marchandise n'est pas encore arrivée. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'il faut attendre le lendemain. Est-ce que je suis voyageur ou pas?
Oui.
T'es voyageur. Deuxième jour, j'ai attendu au Maghreb, ils m'ont dit non, malheureusement il y a des problèmes, il faut attendre le lendemain. Troisième jour, est-ce que je suis toujours voyageur? Quatrième jour, je reviens, je suis toujours à Marseille, j'arrive, je reviens, je retourne au Maghreb, ils me disent encore, il y a un problème, le bateau n'est pas arrivé, etc. J'attends le cinquième jour, est-ce que je suis voyageur? Je suis voyageur. J'attends le sixième jour. Toujours, il me répète la chose. Toujours, chaque fois, je rôde le sixième jour, le septième jour, le huitième jour. Toujours, ils m'ont répété la même chose. Dans toutes ces périodes, je me considère comme un voyageur. Est-ce que c'est clair? Ils disent que même si ça dure un mois, deux mois et plus, tant que tu avais cette intention dès le départ et tu n'as pas changé ton nation, tu n'as pas dit moi je réside. Je réside à Marseille. Supposons pendant cette période, tu dis, ouais, c'est bon, je déménage de Paris à Marseille, je réside. Là, tu deviens un résident. Est-ce que c'est clair? Mais à partir du moment où tu es dans ce cas, tu es toujours un voyageur, même si ça dépasse les 4 jours, même si ça dépasse les 1 mois. Il y a un affaire de Ibn Amr. Ils étaient bloqués quand ils étaient à Adrabidjan. Je ne connais pas où se trouve, par rapport, même en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, Adrabidjan. Hein? Oui, voilà, je ne connais pas exactement. Hein? Comment? Je ne connais pas. Je ne connais pas comment ça se dit en haut. Mais je connais lui, il s'appelle Adrabidjan. Il fait froid. Ibn Omar, Ibn Khattab, il était bloqué 6 mois. 6 mois, il était bloqué 6 mois à cause de la neige. Pendant tous ces 6 mois, il raccourcissait sa prière. Est-ce que c'est clair? C'est pas parce que tant que t'es voyageur, tu es voyageur. Non. Les hadiths, ils sont clairs. Il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que, à partir de 4 jours, si tu avais l'intention de résider tous 4 jours, tu n'es plus voyageur. Mais si dans les autres cas qu'on avait cités, tu raccourcis, même si ça peut dépasser des mois et même des années.
Donc, j'avais raison. Tant que tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, tu peux déduire ta prière.
Non, mais j'ai précisé. Il faut prendre en considération l'histoire des 4 jours.
Non.
Taïb, je vais te dire oui, tu avais raison.
Tant que tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, tu peux aller dans un endroit et tu vas expliquer bien la chose. Tu peux rester 2-3 ans. Tu ne sais pas quand est-ce que tu rentres, tu attends quelque chose. Donc voilà, ça dit ce que.
D'accord. J'ai rien dit, Yachazdi. J'ai rien dit. Non. Ça, dans ce cas, tu rentres dans le premier cas. Tu as l'intention de résider plus que 4 jours. Si tu sais, d'ici un mois, elle va arriver. Toi, tu dis, moi, je voyage demain. Je voyage demain. Tu sais où tu vas résider. Parce que tu avais l'intention de résider, certainement. Tu sais où. Tu as un endroit où pour résider. En plus, c'est plus que 4 jours. Tu dis, moi, pendant tout le mois, je vais l'attendre. Je vais le passer à Marseille. En attendant. Là, tu n'es plus voyageur. Parce que tu avais l'intention de résider dès le départ, avant que tu partes. Des points avant que tu sors de chez toi ou l'endroit où tu es parti, tu avais l'intention de résider en plus 4 jours. Dans ce cas, tu raccourcis pas. On aura l'occasion, il y a beaucoup de fatawa qui parlent sur ce point. Donc je vais vous montrer, donc c'était le résumé, c'était, et parmi, même à l'occasion, une fatwa de Lajna Daima, vu que je l'ai. Naam. Par exemple, la fatwa, dans le volume numéro 8, naam, le volume numéro 8, la page 95, la question numéro 2852. Al-fatwa raqam 52 ba'd 800 wa 2000. السؤال: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة 3 أو 6 أيام أو عام فهل يقصر أم لا؟ وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟ Donc la question: est-ce que le voyageur qui réside dans un pays pendant 3 jours ou 6 jours ou un an, est-ce qu'il raccourcit la prière ou pas? Et après une autre question concernant le tayammum. Donc on répond juste à la première question. الجواب: أولا المسافر الذي نوى الإقامة ببلدنا أكثر من 4 أيام لا يقصر الصلاة وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. Donc c'est la fatwa de la Lajna Daima qui confirme ce qu'on avait dit que. Donc la réponse est: le voyageur qui a mis l'intention de résider dans un pays plus que 4 jours, il ne raccourcit pas la prière. Mais par contre, si sa résidence est moins de cette période, c'est-à-dire la période de 4 jours, فَإِنَّهُ يَقْصُرُ الصَّلَاةِ. Donc, certes, il raccourcit la prière. Donc, c'était l'avis et la fatwa de Lajna Daima concernant. Il y a beaucoup de fatwa concernant qui rejoint la même fatwa dans le même livre, Inch'Allah. Donc ça, c'était le point concernant la durée du qasr, le fait de raccourcir. Donc il faut savoir si on a l'intention et aussi connaître la durée de 4 jours.
Par exemple, tu peux aller à Marseille pendant, tu vas résider là-bas pendant un mois.
Non.
T'as l'intention de résider là-bas.
Non.
Donc tu raccourcis pas, c'est ça?
Pendant un mois.
Tu
raccourcis pas.
Et durant le trajet?
Ce trajet, t'es voyageur.
Voilà.
Pendant le voyage et aller-retour, t'es voyageur. Tu raccourcis ta prière. Je parle pendant là-bas. Voilà. T'es arrivé là-bas. Tu raccourcis, tu raccourcis pas. Tu regardes selon ton intention et selon la période. Est-ce qu'elle dépasse, elle est plus que 4 jours ou moins de 4 jours. Allahu a'lam. La yuqassir, na'am. On va arriver. On va parler sur ça. C'est un point où je l'ai fait séparer, moi, Charles.
Et qu'est-ce qu'on fait des hadiths de 20 jours qui rentrent dans quoi? Ça rentre dans quoi? Des 20 jours, quand il a fait 20 jours, il a raccourci ses prières. Qu'est-ce qu'ils disent sur ce hadith? Ils disent qu'il était, en fait, il était bloqué, la mise au salat.
Redis la question.
Tu nous as dit au début.
Il y a plusieurs hadiths.
Voilà.
Non.
Notamment celui de 20 jours.
Non.
Et celui de 20 jours. Il y avait un sebeb qui l'a fait 20 jours parce qu'il était coincé ou là.
Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam.
J'avais entendu, après, je ne sais pas, peut-être que je me suis trompé, mais j'avais lu une fatwa de Cheikh Al-Semin.
Rahimahullah ta'ala.
Comme quoi il y avait l'histoire de Moulida. Selon les jours, il a dit qu'il n'y avait aucun offre. Je
ne
sais pas, je
rapporte
juste ce que j'ai lu.
Je connais l'avis de son chagrin, je sais. Mais j'ai préféré de me contenter de l'avis de l'Ijnat Daima. Dans ce cas, c'est pour ça que souvent je reviens à la fête de l'Ijnat Daima pour tout le monde qui sera content d'écouter la fête de l'Ijnat Daima. Comme ça, pourquoi j'ai précisé pourquoi j'ai préféré chaque fois de citer la fête de l'Ijnat Daima, parce que ce n'est pas un avis d'un seul savant. Sinon, on en a 5 ou 6 ou même 10 ou une quinzaine, c'est-à-dire, ils répondent à la question. Donc c'est pour ça, c'est plus fort d'avoir un ensemble de savants qui ont la même réponse qu'un seul savant. Parce que si je dis Ibn Taymiyyah, il va me dire « Moi, je suis Ibn Baz ». Si je dis « Ibn Baz », même si je dis « Maliki », il va me dire « Moi, je suis Hanbali ». Tu vois, c'est pour ça que je dis l'avis de la majorité des savants, l'avis de la communauté des grands savants. Donc c'est pour ça, plus ils sont nombreux, plus c'est plus à l'aise pour la personne. Surtout quand les gens... ils ont pas un niveau pour rentrer dans le détail et parler sur... Naam. Un point qu'on va l'aborder aussi maintenant. Salatul musafiri khalf al-muqim. Le quatrième point, c'est la prière du voyageur derrière le résident. Un voyageur, il arrive à la prière du dhahr, il rentre à la mosquée de Salam, de Corbeil. Et il trouve l'imam, il est en train de faire salat al-dhuhr. Et l'imam, il est résident, avec notre cheikh Ali par exemple. Et le voyageur, il rentre pour faire salat al-dhuhr. Et on a dit, al-afdal, le mieux, il est recommandé que le voyageur raccourcisse sa prière. Donc normalement, il doit faire 2 unités de prière. Ah, ceux qui sont résidents, certainement, ils vont faire 4. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que il fait ses 2 seul? Est-ce que il attend lui-même ou il rentre avec lui dans sa prière et après, quand il fait 2 unités, il sort de la prière? Est-ce qu'il suit lui-même en faisant 4 ou qu'est-ce qu'il doit faire?
Il est tout seul ou ils sont plusieurs? Ça peut changer.
J'ai dit un moussafir, il rentre. C'est quoi la différence entre ceux-là?
Non, parce que j'avais lu dans le commentateur de Charles Mondaz, c'est les questions-réponses, il dit qu'il était mieux au Moussafir que s'il venait dans une ville, il entendait l'Adhan, il priait entre...
C'est pas la question que je pose. Ça, c'est un autre... J'ai compris ça, mais c'est pas la question que je pose. Je dis, un voyageur, il rentre pour faire... Même un groupe, ils veulent rentrer faire, ils veulent faire le prière de Dhuhr, ils rentrent dans une mosquée, ils trouvent, ils sont en train de faire Dhuhr. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils se séparent du premier groupe pour faire le prière et ils font que 2? Est-ce qu'ils doivent suivre le imam parce qu'il est en train de faire la prière obligatoire et le jama'a, on connaît l'importance du jama'a? Qu'est-ce qu'il doit faire? Le voyageur derrière un imam résident. C'était ça la question. Ça, c'est autre chose. Si je commence à parler, je vais sortir du Daska. On parlera après, Inch'Allah. Seul ou derrière l'imam résident? Et l'imam, il va faire 4. Hein? Vous devrez savoir. Parce que si on est résident Salat Isha, comme Bariat Salat, d'accord, attendez. Je donne la réponse et je m'arrête là et demain je donnerai le Salat al-Musafiri khalf al-Muqim. Je lis rapidement. وَهِيَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا وَلَا بُدَّ. Il faut qu'il complète sa prière en faisant 4. وهو مذهب الجمهور. Et c'est l'avis de la majorité des savants. من الأئمة الأربعة. Les 4 أئمة, الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, ils ont tous d'accord que le ma'moum, le voyageur, s'il rentre derrière un imam résident, il doit compléter sa prière en 4.
وغيرهم وهو قول ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين. C'est l'avis de ابن عمر, ابن عباس et autres تابعين. واستدلوا بالأدلة المتقدمة. Le seul hadith que je vais citer. وفي لفظ إن إذا كنا معكم صلينا أربعا فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم.
Ça, donc ça c'est l'athar. Demain, inchallah, on aura l'occasion de détailler. C'est un athar de Ibn Abbas. Où ils ont posé la question, est-ce qu'on est voyageur, on est derrière l'imam, est-ce qu'on fait 2, on fait 4? Il a dit, on doit faire 4, et c'est la sunna du Abi al-Qasim, qui est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour terminer, et demain, inshallah ta'ala, on continuera le point qui est resté, et surtout, on va consacrer des fatawas tirées de l'ajnat daima, wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.